point de fuite.
Et on part donc en mer, Christophe Canu, avec le reportage du jour.
Oui, grâce à la reporter Marion Paquet, on va monter sur un vieux gréement, un vieux voilier. Ce qui nous promet déjà, c'est une belle aventure, un beau voyage. Mais on va joindre l'utile à l'agréable, car on ne fera pas que se promener en mer. On va aussi transporter des marchandises, du café, du thé, du chocolat, du vin, des conserves, de poissons aussi.
Pourquoi vous montrez du doigt quand vous dites du vin ?
Parce que c'est toujours agréable de boire du vin sur un bateau quand on a le mal de mer.
C'est vrai.
Enfin, voilà, donc il y a aussi des conserve de poisson. Et ce qui est assez génial, c'est que ce transport-là se fait sans émission de CO2. Qui dit mieux ?
C'est vrai que c'est pas mal, hein. c'est un beau projet. Qui est à l'origine de ça ?
Alors c'est une jeune entreprise bretonne, Tote, qui est partie d'un constat de l'Union européenne. Au sein de l'UE, en fait, les transports représentent près d'un quart des émissions totales de CO2. Alors là, pour l'instant, tout le monde est d'accord, Tote comme l'Union européenne, mais les solutions proposées par les uns et les autres sont différentes. Du côté de Bruxelles, on compte sur les carburants dits bio pour réduire ces rejets de gaz carbonique, alors que du côté de chez Tote, on mise sur l'énergie du vent. Ce qui est quand même pratique puisque c'est gratuit et ça ne pollue pas, alors que les biocarburants sont loin d'être inoffensifs en termes de pollution atmosphérique.
Alors c'est vrai que dit comme ça, Christophe, c'est très très beau, etc., etc. Mais on vit quand même dans
je
un monde.
Venir, ouais.
Ben c'est ça, je vais pas ne pas avoir de café aujourd'hui parce qu'il y avait pas de vent sur la Manche et puis je dois attendre 3 jours avant d'avoir ma conserve de poisson.
Oui, alors vous pensez bien que la reporter de Point de Fuite a posé cette question, a fait la même remarque, elle l'a soumise au fondateur de l'entreprise Tote et on entendra leur réponse dans son reportage, mais pour l'heure, retour sur l'origine de ce projet un peu fou, Marion Paquet.
Alors, il faut savoir que le transport maritime, ça représente 90% du commerce mondial, mais il s'effectue essentiellement avec des grands cargos. C'est l'un des moyens de transport les plus polluants, en fait. Selon une étude de France Nature Environnement qui date de 2016, 20 des plus gros porte-containers polluent autant que toutes les voitures dans le monde, en fait. Donc, c'est extrêmement polluant. Et ça, c'est notamment dû, en fait, à une plus grande quantité de soufre qui est présente dans le fuel, donc dans le carburant utilisé par ces gros porte-containers.
Et donc, fort de ce contexte, l'entreprise Tote s'est développée ?
Oui. En fait, donc c'est une société qui a été créée, il y a 4 ans officiellement, en 2013, pour essayer de penser un moyen plus écologique de transporter des marchandises. Alors, en fait, Tote, c'est une société qui a été créée par un couple de Bretons, donc Guillaume Legrand et Diana, sa compagne, donc des Bretons qui sont déjà amoureux de la mer et du transport à la voile, et qui ont pensé justement face à ce constat d'un transport mondial qui est très polluant, qui se sont dit, ben tiens, pourquoi pas utiliser des vieux gréements, des anciens voiliers, pour justement remettre au goût du jour ce transport à la voile.
Combien a-t-elle de navires en fait à disposition, la société Tote ?
Ils travaillent avec une dizaine de navires.
Donc tous des vieux gréements ?
Oui. Alors, ils transportent essentiellement du rhum, du thé, du café des Antilles, du vin de Bordeaux et de Porto, de la bière en provenance d'Angleterre. Ils transportent également des conserves de poissons, que des produits secs, voilà ce qu'on peut trouver dans leur cale. Et tous ces produits, ils portent un label, donc le label transporté à la voile.
Une dernière précision, quelles sont les principales destinations ?
Alors les principales destinations, ce sont les Antilles, le Royaume-Uni et puis une route maritime qui suit le littoral atlantique français jusqu'au Portugal. Donc en fait, il faut savoir que les étapes, quand ils peuvent, ils ne les font pas en une fois. Ils font ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent dans les ports régulièrement. Et là, par exemple, pour faire la route qui va jusqu'à Bordeaux pour aller chercher du vin, le bateau s'arrête sur les ports du littoral. Ils font des étapes d'une à deux journées. Et donc, ils en profitent à chaque étape pour récupérer des marchandises et en vendre d'autres.
Parce qu'ils partent de quel endroit ?
Donc là, le bateau dans le reportage, il part de Douarnenez en Bretagne et il va jusqu'à Porto au Portugal. Et c'est cette route que j'ai empruntée avec eux.
Et voilà, il est grand temps de partir. Place au terrain, les voiles de l'avenir. C'est un reportage de Marion Paquet. Réalisation Jean-Daniel Mottet.
On va peut-être garder par... Par série.
Là, vous avez quoi à décharger ?
Là, les conserves de poissons crustacés. Et... Ouais, il y a combien de références ? Araignées, tourteaux, rillettes de thon nature, rillettes de thon fumé et foie de lotte. Des spécialités de l'île-lieu, quoi. Bernard Henquin, on s'occupe de la conserverie sur l'île-lieu. Conserverie de poissons, crustacés, coquillages.
Depuis combien d'années ?
Ça fait bientôt une vingtaine d'années. On s'occupe de ça.
Et ça fait combien de temps que vous travaillez avec d'autres ?
Alors, ça fait 3-4 ans maintenant qu'ils viennent tous les ans et on leur livre des conserves de poissons. Mais ça prend un petit peu d'ampleur, toujours un petit peu plus tous les ans, donc c'est plutôt sympathique. Alors attends, je vais te les donner au fur et à mesure. On va faire la chaîne de solidarité.
Bien sûr.
Alors, c'est un peu dans l'air du temps, donc c'est plutôt sympathique de participer à une petite aventure comme ça, à mon niveau. Hein, c'est plutôt eux qui font le travail. Mais puis de port en port, nous on a toujours cette... Quand même on est sur l'île, donc le côté maritime nous intéresse bien. C'est un petit peu nos racines, donc quand on peut développer, participer ou accompagner ce genre d'initiative, je trouve ça assez intéressant.
Pourquoi vous dites que c'est dans l'air du temps ?
Au niveau écologique, au niveau... nous, on essaye d'être au plus près dans nos fabrications de la nature, donc ne pas utiliser d'OGM, de colorants et choses comme ça. Donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant.
Et hier, quand je vous ai appelé, vous ne saviez pas encore vraiment quand est-ce que vous deviez livrer. Est-ce que ce côté imprévisible, c'est pas compliqué à gérer quand on doit livrer de la marchandise ?
Nous, on a la possibilité de faire un peu de stock, mais on est plutôt habitué à ce genre de situation. Pour vivre sur une île, on est toujours un peu tributaire du temps, des événements, et les horaires de bateau, c'est un peu notre lot quotidien, donc ça ne nous dérange pas plus que ça, en tout cas. C'est même assez rigolo, à un moment donné.
Maintenant, on va continuer.
De toute façon, ils sont mis à l'abri, peut-être.
Ah oui.
Ouais, quand même, oui. L'humidité, après, pour transporter les cartons, ça va être un peu compliqué.
Ça représente combien de votre marchandise ?
Pour l'instant, sur l'ensemble de nos ventes, ça représente pas un gros chiffre. Mais je vous dis, l'intérêt, c'est surtout participer à ce type d'événement. Ça prendra sûrement pas l'ampleur, je pense, du transport routier, puisque maintenant les gens sont toujours pressés d'arriver, pressés d'avoir les choses. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont y a un écho par rapport aux gens qui sont sur les ports et qui les voient arriver. Donc, ils ont un rôle à jouer dans ce qu'on a envie de faire actuellement.
Pierre, tu peux me dire ce que vous êtes en train de faire là avec Manu ?
Là, on charge donc des marchandises, des conserves, et on essaye de bien les caler pour que ça ne subisse pas le roulis et que ça ne vole pas pendant les navigations à venir. Voilà, pour que tout soit prêt pour aller à Bordeaux, ensuite à Porto et ensuite rentrer en Bretagne sans qu'il y ait de casse.
Et pourquoi ça t'intéresse, le transport à la voile ?
Ça permet de donner vie à des vieux bateaux. C'est quand même assez anachronique ce qu'on fait, je pense, toutes les méthodes de travail qu'on utilise, que ce soit pour la navigation ou l'entretien du bateau, sont quand même des méthodes qui ont été éprouvées par les siècles. Et je pense que c'est la première étape d'un développement vers d'autres modes de transport maritime et vers d'autres bateaux. Pour l'instant, c'est l'exploitation de voiliers existants et peut-être un jour la construction de voiliers qui seront plus efficaces avec des capacités de fret supérieures.
Donc Donc maintenant qu'on a chargé les conserves de poissons dans les cales, tu me fais visiter ?
Oui, bien sûr. Alors là, on se trouve sur le pont du bateau, donc un pont entièrement en bois, en iroko, un bois exotique. Donc le Loon, c'est un bateau qui fait 20 mètres au niveau de l'eau, un petit peu plus sur le pont, 21 mètres à peu près. Le bateau a deux grands mâts en pin. Le bateau, c'est vraiment un lieu de vie hein, pour tout l'équipage. Alors, on a un peu de verdure. Donc là, c'est un peu des plantes aromatiques. On a aussi donc plusieurs points d'entrée pour le bateau. On a donc une entrée pour que l'équipage puisse accéder à sa cabine et une entrée pour pouvoir accéder à la fois à la cale de charge et à l'espace de vie.
Et on peut descendre ?
Oui, bien sûr. Allons-y.
Donc là, on se trouve où ?
Donc là, en fait, on est dans l'espace de charge qui est chargé avec des barriques de vin, des bières, du café. Juste à côté de ces cales, on a donc notre espace de vie avec une grande cuisinière à gaz, des rangements pour les casseroles. Quand on avance à l'étrave du bateau, c'est-à-dire tout à l'avant du bateau, on se trouve dans la cabine de l'équipage et donc on a 8 bannettes, on appelle bannettes les lits donc pour les marins, qui sont donc en fait 4 lits superposés sur chaque côté du bateau.
Et pour la salle de bain, on fait comment ?
Le Loon ne dispose pas de salle de bain, donc on est encore à la vieille méthode avec un seau pour les sanitaires et puis un autre seau quand même, parce qu'on a des seaux distincts pour pouvoir tirer un peu d'eau de mer et se laver quand on fait des grandes navigations.
C'est un peu rude comme mode de vie quand même.
Oui, c'est assez spartiate. Je pense que c'est l'adjectif qui convient.
Est-ce que tu penses que les marins aujourd'hui sont prêts à faire un retour en arrière et à vivre comme il y a 100 voire 200 ans, vivre avec ce mode de vie spartiate pour faire revivre le fret à la voile sur les vieux gréements ?
Le mode de vie marin a toujours été un peu rude par rapport au mode de vie terrien. Mais pour l'instant, toutes les bannettes sont prises. Donc oui, je pense qu'il y a des marins qui sont prêts à faire ce sacrifice pour le fret à la voile.
Là, il est presque 10h du matin et nous quittons le port de Lugdunum. On passe devant des bateaux de marchandises, des bateaux de plaisance, et on cède du moteur pour sortir du port.
Hein ? Tu m'as entendu ? Ok.
Il y a un petit peu de vent. Un beau soleil, un ciel bleu avec quelques nuages.
Hey, c'est bon, c'est bon.
Je m'appelle Ulysse Buquin et je suis le capitaine et l'armateur propriétaire du navire Loon 2. Alors, Loon 2, ça veut dire abri. En norvégien. Il a été baptisé en 1914 et il a été rebaptisé avec un numéro 2 parce qu'ils l'ont rallongé, jumboisé en 58. Un bateau qui a été construit pour la pêche à Ålesund, au-dessus du Cap Florø en Norvège. Là.
Et qu'est-ce qui t'a donné envie de l'acheter et de faire du transport à la voile avec ?
Guillaume Legrand, je crois qu'on a retrouvé un mail de 2011 ensemble. Notre premier échange, un email. Lui, il avait besoin d'un bateau qui puisse travailler et naviguer pour ce qu'il veut faire avec les marchandises. Moi, j'avais clairement armé le bateau pour ça aussi. Et du coup, on s'est dit, ok, moi je vais chercher le bateau dans le Pacifique, je le ramène par Panama et on charge du rhum, du café, du thé, on charge tout ce qu'il y a à charger. Et puis ça marche.
Vous êtes parés ? Vous êtes parés ? Allez, ça reprend les écoutes d'Artimon, les écoutes de grand voile là. On est près devant. Allez, reprends Max. Allez, ça passe à choc derrière. Ça choque aussi. AGV, ça choque en grand. C'est bon.
Elisabeth, est-ce que tu peux me dire ce que tu es en train de faire là ? Bah là, je suis en train de barrer, j'essaye de tenir le cap 170. Et toi, tu es marin professionnel ou pas du tout ?
Pas du tout, j'aimerais bien me diplômer. J'aurais dû le faire cet hiver, mais comme j'étais sur le chantier, j'ai repoussé la formation. Parce que j'ai travaillé sur le chantier du bateau. Et du coup, j'avais vraiment très très envie de le voir sur l'eau et de voir comment il marche.
Et toi, tu penses que ça peut être un mode de transport d'avenir, la voile ?
Je sais pas si c'est très efficace financièrement. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bénévolat quand même. Ça, c'est pas du tout compris dans le prix des produits à la fin. Mais sur des plus gros bateaux, ouais. Ça devrait être des produits de luxe, les produits qui viennent de loin en fait.
Faut que le café redevienne un produit de luxe.
Il est sûrement pas payé le prix qu'il vaut, ça c'est... J'en suis persuadée, ouais.
Bien, Manuel.
On n'est pas censé consommer ça comme quelque chose qui pousse dans notre jardin, quoi.
Allez, on prépare le virement. Moi, j'ai du monde à mes écoutes, ça me va.
Ouais.
Tu prépares juste la drisse au moins de Génois qu'on a fait à la rampe. Après, on laissera un contre.
Lisse,
ouais, ouais.
Tu peux me dire en quoi elle consistait la manœuvre qu'on vient de faire là ?
Ben là, pour faire cap route directe la destination, on est plein cul au vent. Donc pour stabiliser le bateau, on a envoyé la fortune carrée avec une aile de pigeon. Comme ça, on a toute la surface qu'on peut envoyer sur le bateau, on l'a envoyée.
La fortune carrée, l'aile de pigeon, là. C'est des voiles ?
Ouais, là. Grosse fortune carrée. Et on a rajouté 110 mètres carrés de voile, là, au vent. Donc là, il y a 300-400 mètres carrés de voile, là, qui portent bien, quoi.
Là, sur le fond, on est à 3,8.
Ça correspond à quoi ?
Ouais, on a 7 km/h, quoi. Et c'est bien. Là, on essaie de faire la route, mais c'est aussi parce que il faut pas arriver trop tard. Là, on va arriver déjà à 22 heures, là. C'est un peu tard. On va atterrir de nuit presque. Voilà. Si on s'amuse à perdre du temps, bon, c'est vite. On est rendu à 1h, 2h du matin à atterrissage, quoi. Et ça sert à rien. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre.
Il est un peu plus de 21h30. Nous arrivons dans le port de l'île de Ré. Et nous retirons les voiles.
Juste à Là, je tourne là, là. Ouais. Ouais. Ouais.
La place est au fond, vous serez à Babaraquet.
Elle est où l'écluse?
Après, vas-y, avance.
Là, je continue à avancer, là. Je passe Lola.
Ouais, tu passes Lola. Okay, tu vas laisser Lola sur ton babord.
Ouais.
Et t'avances dans le port.
Ok.
Solo Molo, il n'y a pas grand place.
Ouais, je vois ça, ouais. Ah, mais il y a du bateau en plus. Là ça va aller.
Ouais, pas tout de suite non mais.
Ah ouais mais c'est joli hein, mais il n'y a pas de place quoi. Ouais. Ouais, c'est bon, ouais.
Le but d'un navire, c'est de naviguer. En 1914, il est né pour être un voilier de travail. C'est un tracteur, quoi. Pas un petit camion. Le côté mettre des marchandises, les commercialiser, vous voyez, peut-être que ça relève un peu de l'exploit, quoi. Mais le faire naviguer, non.
Pourquoi ça relève de l'exploit?
Bon, parce que c'est compliqué de faire un business plan avec des marchandises transportées à la voile. Mais avec des concessions et une vision différente même de l'économie d'une entreprise, on a réussi à le faire.
Est-ce que c'est trop imprévisible?
C'est pas forcément sur le côté imprévisible, c'est sur le coût que représente l'exploitation d'un navire comme ça. Bon, après, Guillaume, il vous parlera de 10 centimes par sachet de café. C'est pas grand-chose. Mais on arrive à le faire quand même, parce que derrière, les gens, ils achètent l'histoire, plus, autant que le café, quoi.
Guillaume, vous nous avez rejoint à l'île de Ré. Vous êtes le fondateur de Tote. Vous, votre travail, c'est d'affréter des navires pour amener des marchandises à la voile. C'est quoi l'intérêt de remettre au goût du jour ces vieux gréements?
Les voiliers existants, leur premier avantage, c'est d'exister. Hein. On parle pas de vieux gréements, moi j'aime pas trop ça, les vieux gréements, on a l'impression d'aller sortir à la maison de retraite des aïeux pour le plaisir du geste. Non, on parle plutôt de voiliers de travail, et c'est ça véritablement l'avantage de ces voiliers peut-être d'un autre temps, mais en fait qui sont extrêmement contemporains et extrêmement modernes par rapport aux besoins qu'on a aujourd'hui en transport à la voile. Est-ce que le pari de dire on va faire du transport à la voile, mais avant de faire du transport à la voile on va construire un bateau moderne qui est adapté pour faire du transport à la voile, je pense qu'on sera encore au stade tout simplement d'en parler. Le premier objectif, nous, c'est de décarboner drastiquement les transits maritimes. Et ensuite, on est obligé d'avoir une interface véritablement commerciale pour pouvoir ne pas faire du transport à la voile pour la belle idée du geste, mais véritablement faire du commerce à la voile. Et on considère que c'est parce qu'on a un défi commercial qu'on pourra relever le défi véritablement écologique. Peut-être un jour, on aura des demandes telles que ces voiliers seront trop petits, qu'il faudra que grâce à eux, on puisse construire les prochaines générations. Et ça, on le regarde aussi de façon sérieuse, on réfléchit à des voiliers cargo, etc. Il y a à la fois un respect de l'histoire, un respect de ses capacités techniques, un besoin de ses capacités techniques qu'ont ces bateaux aujourd'hui, et puis des perspectives qui nous ouvrent. Hein, voilà.
Oui, ce modèle économique du transport à la voile, est-ce qu'il est compétitif aujourd'hui ?
Il est de loin le plus compétitif d'un point de vue environnemental. On est sur une réduction complètement drastique des bilans CO2. Personne n'est capable aujourd'hui de faire ce qu'on fait avec des voiliers, même si c'est des centenaires.
On a vu qu'il y a beaucoup de bénévoles quand même sur les bateaux, ou en tout cas...
Non, mais bien sûr.
Est-ce qu'il est viable?
Non, mais de quoi on parle? De compétitif, aujourd'hui, on est sur le transport le plus environnemental qui existe. Donc, est-ce que être compétitif, c'est être le moins cher, le plus rapide possible? Dans ce cas, clairement, le transport à la voile, c'est pas le plus compétitif, loin de là. Il s'agit aussi de créer quelque chose. Le modèle économique aujourd'hui, vous me demandez, en gros, qui est salarié, qui gagne sa vie, est-ce que les gens gagnent bien leur vie? Laissez-nous créer quelque chose, laissez-nous respirer, hein. Laissez-nous innover et laissez-nous trouver une façon d'avoir des circuits économiques qui rémunéreront chacun. Laissez-nous créer quelque chose. Laissez-nous faire pousser l'arbre. Aujourd'hui, c'est un arbrisseau.
Est-ce qu'on pourrait envisager de tout transporter à la voile ?
Oui. Non, mais est-ce qu'il faut tout transporter ? Je veux dire, est-ce qu'il faut transporter des parpaings en transatlantique ? Est-ce qu'il faut faire venir des crevettes en avion pour qu'elles se fassent décortiquer en Pologne, après avoir été pêchées en Écosse, pour être mises en conditionnement au Portugal et être vendues à Rungis ? Est-ce qu'il faut transporter ça ? Donc non, on ne va pas remplacer le transport aérien. Le transport de fret, non, on ne va pas le faire. Aujourd'hui, il est évident que les produits qui sont là sont des très bons produits, des produits qui sont retrouvent complètement dans les valeurs qu'on porte. On n'est pas en train de transporter des big bags de gravats ici, hein. On n'est pas en train de transporter des voitures ou des choses comme ça. Ça nous va pas, ça nous convient pas.
Le transport à la voile est quand même très dépendant du vent. Est-ce que c'est pas compliqué de composer avec ce facteur vent ?
Oui, non, mais le transport conventionnel est quand même très dépendant du pétrole. Je pense que le vent sera toujours là. Ce savoir-faire de les comprendre, les vents, d'avoir ces routes maritimes traditionnelles, donc il serait dommage de perdre ce savoir-faire, de ne plus savoir utiliser le vent, de ne plus savoir manipuler un gréement, de ne plus savoir mener un bateau avec le vent, et donc justement en ayant ce sens marin du vent, des courants également, du grand calendrier en fait, hein, de savoir qu'on peut aller à tel mois, à tel endroit, et qu'à un autre moment on n'y va pas, et donc on cherche même pas à y aller.
Mais vos dates de livraison sont quand même... assez imprévisible. Comment vous faites pour gérer vos commandes, les commandes de vos clients ?
Nous, les contrats de transport qu'on a avec les chargeurs sont tout simplement empreints de bon sens. Hein. Qu'est-ce que ça change que, par exemple, des Biocoop, hein, qui sont une chaîne de distribution de produits biologiques, que leur vin ou que leur fèves de cacao arrivent le 13 juin ou le 15 juin ou le 11 juin ? Donc on est obligé également, nous, d'avoir une certaine pédagogie avec des chargeurs qui sont adaptés à un mode d'avoir validé des mois à l'avance l'heure, la minute à laquelle arrive le camion, en disant non, chez nous, ça ne va pas se passer comme ça. Donc nous, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on a des gens qui sont contents de savoir que leurs marchandises arriveront, et finalement, on n'est pas à la minute, on n'est pas au jour, certaines fois on n'est pas à la semaine près, très franchement. Mais ils nous font confiance, on arrive.
On est arrivé ici à l'île de Ré et on repart où et quand ?
On va rester demain. Vendredi, on appareillera pour Royan. Hein, il y a un petit appareil, hein, histoire de vent et de marée. Donc on va se mettre en stand-by à Royan en attendant la marée d'après pour décoller samedi jusqu'à Bordeaux.
Les voiles de l'avenir, un très beau reportage de Marion Paquet, réalisation Jean-Daniel Motter. On avait vraiment l'impression d'être au bord du voilier, de partager la vie de l'équipage. Elle a passé du coup, j'imagine, Christophe, pas mal de temps pour arriver à ce résultat.
Oui, il n'y a pas de secret. Elle a passé 3 jours avec l'équipage et puis aussi avant d'accoster sur le bord en Bretagne. Ça lui a permis en fait de capter de belles ambiances et de beaux moments de vie. C'est vrai que de temps en temps, c'est important, ça fait du bien d'entendre ça. Alors, il faut quand même dire que ce reportage n'a failli jamais voir le jour. Car ce n'est que depuis ce printemps que le transport à la voile de marchandises sous pavillon français est autorisé dans les eaux hexagonales. Bon, je vous passe les détails, mais ce qui coinçait, c'était des questions d'ordre juridique et d'assurance. Okay. Car les voiliers ne sont pas du tout soumis aux mêmes normes que les bateaux cargo, qui représentent l'écrasante majorité du commerce maritime mondial. Il a donc fallu que la société Taute non seulement trouve des vieux gréements, mais aussi fasse du lobbying auprès du gouvernement français pour que ce type de transport soit autorisé, et visiblement, elle a gagné.
Mais si c'est aussi compliqué que ça, est-ce que ça veut dire que la Taute, c'est la seule société qui fait ça ?
Je pourrais vous répondre, oui. Mais Marion Paquet est quand même mieux placée pour le faire.
Alors en France, ce sont les seuls. Par contre, c'est quelque chose qui existe ailleurs, notamment aux Pays-Bas où ça se fait beaucoup, en Amérique aussi, mais souvent c'est du transport sur de petites distances. Là, la particularité de Tote, c'est qu'ils ont l'ambition de réutiliser la voile pour des plus longues distances, notamment la transatlantique.
Alors vous abordez aussi la question de la viabilité d'un tel projet dans votre reportage Marion Paquet. Guillaume Legrand, donc le fondateur de Tote, dit qu'on n'est pas à un jour près dans la livraison. N'empêche que vous, pour réaliser votre reportage, vous avez dû retarder votre embarquement à plusieurs reprises. Et là, c'est pas d'un jour, mais c'est de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.
Oui, oui, il dit on n'est pas un jour près, mais effectivement, c'est plutôt on n'est pas à une semaine, voire à plusieurs mois près. Alors, c'est certain qu'il y a plusieurs facteurs qui empêchent de pouvoir livrer à des dates et à des heures précises. Bah, il y a déjà le vent et puis l'état des navires. Parce que quand il y a des réparations à faire sur un navire ancien, ça prend pas 2 ou 3 jours, ça peut prendre plusieurs semaines. Et là, c'est vrai que pour les clients, il faut vraiment être flexible et pouvoir s'adapter et avoir une vision complètement différente du transport. Après, c'est sûr que c'est certainement un moyen de transport qui peut être viable. Pour l'instant, il n'est pas concurrentiel d'un point de vue marchand, c'est-à-dire que l'argent de la vente des produits ne permet pas de rémunérer des équipages salariés. Par contre, avec des voiliers plus modernes et plus performants, plus rapides, peut-être que là, il pourrait être concurrentiel par rapport au cargo actuel.
Mais alors, comment on vit l'entreprise actuellement ?
Alors, l'entreprise, elle peut vivre grâce aux équipages qui sont bénévoles. Sinon, les produits seraient vendus beaucoup trop cher.
Et Guillaume Legrand, qu'on entend à la fin de votre reportage, lui, il est bénévole aussi.
Non, les fondateurs et les capitaines des bateaux ne sont pas bénévoles.
Et eux, donc, ils s'en sortent financièrement, pour l'instant, ils vivent de ça.
Oui. Oui, oui.
Mais alors, comment trouvent-ils des équipages bénévoles ?
En fait, il n'y a pas d'école qui forme à la navigation des vieux gréements. Donc, les personnes qui font partie des équipages bénéficient en échange de leur aide d'une formation de la part des capitaines. Et donc, eux, ça leur permet d'être formés à la navigation des voiliers anciens.
Vous l'avez abordé, Marion Paquet, une des suites de l'entreprise Tote, c'est de fabriquer ou d'acquérir un voilier plus moderne. On en est où dans ce projet ?
Pour l'instant, c'est encore une phase de recherche et développement. Donc, on n'est pas encore prêt de voir un voilier moderne faire du fret à la voile.
Une dernière chose, Marion Paquet, peut-être j'aurais dû commencer par là. Vous êtes monté donc sur un vieux bateau, sur un vieux gréement, sur un vieux voilier. Vous n'avez pas eu le mal de mer ?
Non, heureusement, non. Heureusement, c'était de très belles journées de navigation. On avait du beau soleil, un petit peu de vent, pas trop justement pour avoir une bonne qualité de prise de son. Et non, j'ai pas eu le mal de mer.
À l'abordage. J'ai encore quitté cette pauvre Méditerranée. Je lui ai dit adieu avec un étrange serrement de cœur. Le matin à 6h, j'ai pris une barque et j'ai été jusqu'à l'entrée de la rade. Une dernière fois, ces flots bleus. La mer était forte, je me laissais bercer dans la chaloupe en pensant à toi. Puis quand j'ai senti que de mer pourrait bien venir, je suis revenue à terre pour revenir.
C'était le choix de Nathalie Schauenberg, lié bien sûr au reportage Les Flots Bleus. Freda, Christophe Canu, qu'est-ce que vous nous réservez pour demain?
On prend la direction du Japon, en bateau à voile, parce que je vois venir, cela va de soi. Et on va accoster sur l'île d'Okinawa, une île bien connue des GI américains, puisqu'un tiers de sa superficie est occupée par des bases militaires états-uniennes. Et ça dure depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors forcément, sur Okinawa, la majorité des habitants en a marre. Et cette majorité organise très souvent des manifestations, des occupations. Cette lutte a pris d'ailleurs une autre dimension avec la construction en cours d'une nouvelle base militaire américaine en plein cœur de l'île.
On écoute un extrait.
Autant vous que moi, nous n'avons qu'une seule vie. J'ai 88 ans. La mienne est déjà bien entamée. Donc pour ce qu'il en reste, je ne peux que consacrer chaque minute à ce combat contre les entraînements militaires et les guerres qui s'en suivent. Ça fait 20 ans qu'ils annoncent que cette base militaire va être construite. Et depuis 3 ans, on se relaie tous les jours ici pour ralentir sa construction. Je consacre ma vie, là, contre cette construction. Mais vous l'avez compris, ce n'est pas seulement le problème de cette base militaire. Pour moi, c'est avant tout une protestation pour qu'on arrête de faire la guerre. Je suis là pour tous ces disparus, et parce que je suis encore en vie.
Ça s'appelle US Go Home, un reportage de Sophia Marchesin. Écoutez demain dans notre séquence Point de Fuite. À demain, Christophe.
À demain, Lucas.